Bienvenue dans l'enseignement La démarche sociologique, panorama des méthodes. Dans ce module, nous allons voir comment entrer sur un terrain d'enquête et également comment quitter un terrain d'enquête. Alors, l'entrée sur un terrain d'enquête. L'entrée sur un terrain d'enquête est une étape absolument essentielle de l'enquête, au sens où elle va conditionner énormément de choses sur le recueil de données, sur la possibilité du recueil de données, sur la qualité des données recueillies et sur la fiabilité des données recueillies. Donc il s'agit vraiment de préparer l'enquête, l'entrée sur le terrain, et il est important d'y apporter un minimum de soins. Alors, dans le cadre de cette entrée, il va falloir penser et imaginer les conditions les plus favorables en matière de présentation de l'enquête et de soi-même. Comment faire face au refus d'être enquêté? Il peut tout à fait arriver qu'un certain nombre d'individus vous disent non, qu'ils aient ou pas des bons arguments. La question n'est pas là, c'est que personne n'est obligé d'accepter d'être enquêté par un sociologue. Quand vous faites face au refus, comment vous positionner de manière adéquate, opportune? Et éventuellement, parce que vous vous positionnez de manière adéquate et opportune, de permettre que l'enquête ait néanmoins lieu et avec cet individu. Ensuite, troisième élément, il faut être capable de choisir le lieu, la durée et les conditions de cette rencontre, qu'il s'agisse d'interviews, de passation de questionnaires et parfois même aussi d'observations. Et enfin, il faut savoir quitter l'enquêté de manière qui soit favorable, à la fois bien sûr pour sa personne, mais aussi pour vous et pour la continuité de l'enquête. Donc, la première chose à préparer, c'est bien sûr le premier contact. Il s'agit à la fois d'avoir établi la liste soit des personnes, soit des institutions à contacter, et d'avoir préparé un certain nombre d'éléments avant même ce premier contact, pour être prêt à un certain nombre de questions qui vous seront posées, ou ne pas oublier un certain nombre d'informations, ou pour répondre simplement, effectivement, à vos objectifs de prise de contact. Donc, en général, avant ce premier contact, il y a ce qu'on appelle la préparation d'une fiche récapitulative qui concerne soit chaque personne, soit chaque institution. Dans cette fiche récapitulative, vous avez tout d'abord fait la liste des objectifs de cette prise de contact. Et c'est ce que vous n'oublierez pas de survoler avant d'arrêter, de suspendre votre premier contact. Vérifiez que vous avez bien rempli les objectifs de cette rencontre. Ensuite, il faut indiquer l'ensemble des points à aborder et aussi l'ensemble des points que vous souhaitez pouvoir poser, des questions que vous souhaitez pouvoir poser. Bien évidemment, ce premier contact, c'est le moment où on se demande comment faire face à un individu qui refuse, et donc où on anticipe un certain nombre d'arguments qui ne doivent pas être contre-productifs. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit jamais de forcer l'individu, mais il s'agit toujours de susciter chez lui l'envie ou l'intérêt de participer à l'enquête. Donc, il est toujours utile d'entendre les raisons pour lesquelles un individu ne souhaite pas participer. Ceci dit, ce genre de comportement, quand vous avez l'habitude de présenter votre enquête, est assez rare. Pour ma part, ça m'est arrivé une fois. Il s'agissait d'un médecin refusait d'être interviewé, et en fait les raisons étaient simplement qu'il refusait l'enregistrement. Il refusait donc l'enregistrement parce qu'il avait peur de laisser des traces qui pourraient être utilisées contre lui, et en réalité j'ai appris par la suite qu'il était en procès avec l'établissement. Donc il était d'accord pour rendre service, c'est-à-dire pour informer le sociologue, et il n'était pas prêt à prendre un certain nombre de risques. Ce qu'il faut donc évaluer quand quelqu'un refuse de participer à l'enquête, c'est ses motivations. Et si ses motivations, dans le cadre du médecin, vous voyez, j'aurais pu lui dire, bah, effectivement, je comprends votre situation et non, je ne souhaite pas du tout vous mettre en difficulté. En réalité, non, cet homme avait envie et souhaitait me rendre service, souhaitait me donner les éléments d'information qu'il avait en sa possession, mais il ne souhaitait pas prendre de risques. Donc il faut arriver à produire une évaluation de la situation avec la personne, négocier avec elle, en fait, prendre le temps d'en discuter, de comprendre ses sentiments et ses oppositions, pour essayer, ou pas, suivant que ça soit pertinent ou pas, et bien, écoutez, de dépasser ce premier refus. Voilà. Mais dans d'autres cas, il peut être tout à fait pertinent de dire à la personne, bah, effectivement, que vous comprenez tout à fait sa position et que vous n'insistez donc pas. Voilà. Mais donc ça, c'est quelque chose qu'il faut envisager avant le premier contact. Et puis à chaque fois que vous rencontrez un refus, de noter les réflexions et les éléments d'information que vous avez recueillis pour vous préparer au contact suivant, de manière, on va dire, à avoir une stratégie de communication adaptée. Enfin, ce premier contact. Un élément qui souvent n'est pas envisagé, mais qui est pourtant absolument pas négligeable, c'est de penser sa propre disponibilité. Il faut qu'au moment où vous preniez contact, vous soyez vous-même dans une situation de calme, préparé, concentré, que vous ayez relu votre fiche récapitulative, que vous ayez bien en tête vos objectifs et que vous sachiez ce que vous souhaitez obtenir de cette première entrevue téléphonique ou par mail, etc. Voilà, donc le premier contact, comment le préparer? Ensuite, le contenu de ce premier contact. Alors, tout d'abord, il y a cette présentation de soi, de son statut, de l'enquête. Bon, se présenter, bien évidemment, donner son nom, son prénom, son statut. Vous faites ça parce que vous êtes étudiant, vous faites ça parce que vous êtes sociologue, vous faites ça parce que vous êtes chercheur, etc. Mais en tout cas, il faut dire à l'individu, de quel titre et au nom de quoi, au nom de quel statut, vous prenez contact auprès de lui dans le cadre d'une enquête. Si vous avez un statut qui se réfère à une institution, c'est toujours important de l'énoncer, sachant que ça participe à légitimer votre démarche. Ensuite, votre enquête porte sur quel sujet, elle va se dérouler sur quelle durée, et elle va prendre contact auprès de quel type d'institution ou quel type d'acteur. Voilà, et à quoi pourra-t-elle servir? Voilà. Je pense que ça, c'est un élément important pour la personne que vous interpellez, et c'est de savoir finalement en quoi elle pourrait vous être utile, pourquoi elle peut s'imaginer intéressante dans le cadre de votre enquête, en quoi c'est plutôt elle plutôt qu'une autre. Et donc, ça revient finalement à expliquer comment et pourquoi on prend contact avec cette personne et non pas une autre, lui expliquer le choix de votre intérêt pour avoir un entretien avec elle ou pour que ce soit elle qui réponde à votre questionnaire. C'est toujours très important pour l'individu de pouvoir se projeter dans votre démarche d'enquête ou de recherche. Il faut toujours parler succinctement de l'objet de l'enquête, donc du thème, de son actualité, de son intérêt pour la société, de son utilité pour une application à venir, enfin, etc. Et en même temps, il faut rester assez succinct au sens où il ne faut pas que vous déployiez vos hypothèses, il ne faut pas que vous déployiez vos jugements, vos opinions, vos prérequis, etc. Parce qu'il faut absolument laisser le terrain et l'espace de communication le plus vierge possible pour que la personne puisse s'exprimer le plus librement possible. Donc en même temps, on peut dire un certain nombre d'éléments assez généralistes de contextualisation du thème de l'enquête, et en même temps, on en dit très peu sur ce que soi-même on a construit en termes d'objets scientifiques. Donc pourquoi vous procédez à cette enquête? Est-ce que c'est des raisons professionnelles? Est-ce que c'est des raisons scolaires? Enfin, vous exposez vos motivations, c'est toujours extrêmement rassurant pour l'enquêté qui vous écoute. Donc lui suggérer l'intérêt à participer à cette enquête, c'est en quoi il peut être utile, en quoi il est intéressant, pourquoi c'est tout particulièrement lui qui, etc. Et enfin, dernier élément de la prise de contact qui est absolument indispensable et qui participe au cadre déontologique, c'est votre position éthique, quels sont les principes que vous tenez? Notamment, il faut mentionner le fait que vous garantissez l'anonymat, on ne connaîtra pas le nom de la personne, on ne saura pas qui a répondu à vos interviews, on saura simplement le type d'acteur, vous garantissez la confidentialité des données, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui aurez accès à ces données-là, vous ne les donnerez pas à lire à vos collègues, etc., ou à vos collègues ou à vos pairs étudiants. Vous garantissez aussi qu'elle ne sera pas obligée de répondre à toutes vos questions, que bien sûr vous pouvez comprendre que c'est un nombre de questions lui semble trop intrusive et que par conséquent vous respecterez son sentiment. Voilà, c'est on va dire les points les plus classiques de la présentation de soi en tant qu'enquêteur et de l'enquête dans son contenu, mais qui en général sont suffisants et suffisamment explicites pour que l'individu accepte assez facilement de participer à votre enquête. Une fois que l'enquête est acceptée sur son principe, il faut pouvoir en négocier, on va dire, le bon déroulement. Alors, concernant le lieu, lorsqu'il s'agit d'une observation directe, c'est-à-dire de type ethnographique, le lieu est nécessairement celui de l'action observée. Donc, vous voulez savoir comment est-ce que on pratique, je ne sais pas, le surf en mer ou le kayak de mer. Eh bien, écoutez, il faut vous rendre avec votre surf ou avec un kayak que vous aurez loué sur le lieu de l'action et participer probablement à l'action, surtout si c'est en mer et un peu éloigné des côtes, parce que sinon vous ne pourrez rien observer. Par contre, dans le cadre de l'entretien ou de la passation de questionnaire, le lieu est beaucoup plus discutable. Et là, il faut avoir quelque chose d'important en tête, c'est un repère. Le lieu peut influencer les réponses de l'enquêté. Alors, peut l'influencer pour plusieurs raisons. Vous avez un lieu où il y a énormément de bruit, d'ambiance, d'activité, l'enquêté sera distrait. Et il va penser à plein d'autres choses en même temps qu'il l'échange avec vous. Et par conséquent, les réponses qu'il va vous proposer seront probablement de piètre qualité. Vous avez aussi l'influence du lieu en termes de mémoire. Lorsque l'on interviewe une personne ou lorsque l'on passe un questionnaire dans un lieu qui concerne l'activité sur laquelle vous enquêtez, par exemple, vous êtes intéressé par la pratique professionnelle de l'individu, pouvoir mener une interview sur le lieu de sa pratique professionnelle ou de passer le questionnaire dans son bureau, par exemple, généralement facilite sa mémoire parce qu'il a énormément d'informations qui l'entourent et qui viennent le stimuler sur des points auxquels il n'aurait pas pensé spontanément vous informer dans d'autres circonstances. Voilà, le lieu de l'entretien donc est un enjeu intéressant et important à travailler, notamment en termes de calme. Il faut penser que, il faut éviter les situations où le téléphone sonne toutes les 5 minutes, où la porte peut être ouverte à tout moment. Il faut penser donc à un lieu où l'individu se sente un peu comme dans un cocon, dans un moment un peu hors du temps et hors de la société, en tout cas dans un moment d'intimité avec vous, voilà. Et que cette intimité est préservée. C'est le cadre de l'entretien qu'il faut absolument pouvoir envisager. Autrement dit, interviewer dans un bar qui a beaucoup d'ambiance, c'est pas très sensé. Et il peut arriver que, suivant les thèmes que vous abordez dans le cadre de l'entretien, il faut même penser à un lieu sécurisant. Dès que vous abordez des sujets un peu intimes ou que vous abordez des informations dont il peut être discutable qu'on vous les transmette ou pas, il faut que ce soit dans un lieu où l'individu soit sûr qu'il ne puisse pas être entendu par quelqu'un d'autre que vous, où il soit certain de ne pas être coupé par un tiers ou par quelqu'un qui, je ne sais pas, écouterait aux portes ou n'importe quoi de ce type-là. Ça n'a pas beaucoup d'importance. En tout cas, dites-vous que dans certaines circonstances et sur certains types de contenus, les individus ont besoin d'être sécurisés. Et dans ce cadre-là, ils peuvent même vous proposer, parce que dans cette situation, le mieux, c'est de leur demander à leur avis quel est le lieu pour l'entretien ou pour la passation de questionnaire qui leur serait le plus favorable, quel lieu ils souhaiteraient. Dans lequel il souhaiterait que l'enquête soit menée. Généralement, donc, il vous propose le lieu qui les sécurise le plus. Et ça peut être leur propre domicile. Voilà, donc là, il y a une réflexion à mener sur est-ce que oui ou non vous irez à leur domicile. Et là, il faut savoir que, en général, lorsque vous travaillez une interview au domicile de l'enquêté, vous ne recueillez pas du tout le même type d'informations. Voire même, vous pouvez vous retrouver en situation d'avoir des informations qui vous sont transmises qui sont de l'ordre de la délation. Voilà. Qu'est-ce que vous faites une fois que vous recueillez ce type-là d'informations? Est-ce que vous êtes prêt à les recueillir? Est-ce que vous prenez ce risque ou pas? Et si vous les recueillez, quelle position éthique vous allez tenir? Autrement dit, il faut que l'individu qui vous propose ce type-là d'informations soit informé a priori de votre position éthique et non pas a posteriori. Donc vous-même, vous devez y avoir pensé avant d'accepter d'aller au domicile d'autrui ou d'aller dans un lieu qui lui serait particulièrement intime et dans lequel il peut être amené à vous raconter des choses dont vous auriez finalement et a posteriori préféré ne pas être détenteur. Enfin, Outre le lieu, il y a la durée de la rencontre qui doit être négociée. Alors pour un questionnaire, en général, c'est facilement évaluable a priori. Pour un entretien, plus difficilement. Ça va beaucoup dépendre de vos qualités à communiquer et surtout à écouter et à être intéressé par la conversation d'autrui. Il y a vraiment un enjeu particulier derrière votre présence, votre disponibilité au discours d'autrui. Plus vous êtes intéressé, plus l'individu parle, très clairement. Et donc ça, vous allez progressivement, au fur et à mesure de l'exercice de l'interview, savoir de quel type d'intervieweur vous êtes et si vous êtes quelqu'un qui avait des facilités à faire parler autrui ou pas. Ceci dit, un entretien est généralement, pour un sociologue un peu expérimenté, d'une durée d'une heure à 2 heures. Voilà, vous pouvez avoir des entretiens qui durent beaucoup plus longtemps. Pour ma part, il m'est arrivé d'avoir un entretien de 6 heures, donc ça peut être envisageable. Pour des entretiens que vous expérimenteriez, ça serait une première essai pour vous. Dites-vous que d'avoir envisagé une bonne heure pour l'entretien en lui-même est une durée certainement un peu surestimée. Mais qu'en même temps, il faut aussi que vous envisagiez le temps où on se rencontre peut-être pour la première fois en face à face. Il faut échanger quelques mots, il faut se mettre à l'aise, il faut vérifier que tout va bien pour la personne, il faut lui rappeler un certain nombre d'informations, notamment votre cadre éthique, etc. Donc il faut un temps pour la conversation, il faut répondre à ces questions en dernière minute. Voilà. Donc tout ce temps de mise en confiance, de prise de contact, et puis aussi tout le temps qui va être utile pour se dire au revoir. Doit être anticipé et pris en compte dans la négociation de la durée. Autrement dit, pensez moins d'une heure et demie ou 2 heures pour un entretien, même s'il s'agit d'un premier entretien, est probablement erroné. Dernière étape, donc quitter l'entretien. Vous avez quitté l'enquêté, excusez-moi. Donc vous avez procédé à votre entretien, vous avez effectué la passation de questionnaire. Et donc maintenant, vous êtes arrivé au terme de l'exercice. Tout d'abord, il est important, notamment dans le cadre de l'interview, de dire à la personne que on arrive au terme de l'entrevue. Parce que si dans le cadre d'un questionnaire, c'est assez évident que vous êtes à la dernière question, dans le cadre d'un entretien, rien ne dit à l'enquêté que vous avez terminé votre série de questions ou que vous avez exploité l'ensemble des informations que vous souhaitiez pouvoir tirer de lui. Donc, signifier la fin de la rencontre et bien sûr, et ça c'est extrêmement important, ne pas négliger de remercier les individus qui vous ont accordé de leur temps, de leur disponibilité et qui ont fait des efforts pour répondre au mieux à vos questions. Ne pas oublier de rappeler aussi votre cadre éthique et notamment l'anonymat ou la confidentialité des données. Rappelez aussi, si vous ne l'avez pas fait auparavant, à l'enquêté quand et où. Il pourra consulter les résultats de l'enquête. Alors, si votre enquête se termine par un dossier ou par un mémoire, lui dire quand est-ce que vous allez le rendre et si vous êtes prêt ou pas à lui envoyer le document par PDF, ensuite par mail, ou s'il peut le consulter dans telle bibliothèque universitaire à partir de telle date, etc., etc. Mais bien évidemment, il est légitime pour un interviewé ou pour un enquêté d'avoir accès aux résultats dans la mesure où il vous a fourni une partie d'informations qui le concerne lui très directement. Donc, il s'agit d'un échange, d'un don et d'un contre-don. Enfin, quitter l'enquêté suppose de savoir rester en contact, éventuellement de rester à sa disposition s'il avait quelques inquiétudes ou si il souhaitait vous apporter quelques informations complémentaires. Donc, lui donner des éléments pour pouvoir rester en lien avec vous si besoin. Voilà, ne pas oublier bien évidemment de répondre à toutes ces questions, de lui demander s'il a pu vous dire tout ce qu'il souhaitait énoncer avant de le quitter de façon plus définitive. Donc, dans ce module, nous avons vu comment entrer sur un terrain d'enquête. Oui, enfin, il ne faut pas le faire. Voilà. Dans le prochain module, nous verrons comment concevoir un questionnaire.